VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Le président soudanais Omar al-Béchir, sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour génocide, a décidé de ne pas se rendre au sommet des dirigeants arabes et musulmans avec le président américain Donald Trump à Riyad en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'agence de presse soudanaise SUNA. Le président Omar al-Béchir s'est excusé auprès du roi Salman d'Arabie Saoudite de ne pas pouvoir assister au sommet de Riyad, a précisé l'agence en citant un communiqué de la présidence soudanaise. Le ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Gandour, avait annoncé mercredi que le président Béchir se rendrait bien dans la capitale saoudienne, première étape de la première tournée à l'étranger du président américain Trump depuis son entrée en fonction en janvier. Mais les États-Unis avaient souligné le même jour leur opposition à la présence du leader soudanais. Mali, le président français Emmanuel Macron est en visite à Gao, siège d'une importante base militaire française dans le nord du pays. Il a été accueilli à son arrivée sur place par son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le premier déplacement hors d'Europe du nouveau chef de l'État français depuis sa prise de fonction dimanche. Et il a choisi Gao, pivot de l'opération française Barkhane contre les djihadistes au Sahel, qui mobilise 4000 soldats dans 5 pays. Les Maliens ont un message au président Macron concernant la présence militaire française au Mali.
Moi, je m'appelle Bintou Traoré. Pour moi, la présence de la force Barkhane au Mali, plus précieusement au nord, n'a pas sa raison d'être, quoi. Ils sont venus pour gérer la crise. Jusqu'à présent, rien n'a bougé. La force malienne n'est pas jusqu'à présent au Kidal. Et ils sont venus pour instaurer la paix. Cette paix-là, on est loin, très loin de l'atteindre. La France voit son intérêt. La France ne veut pas que Kidal soit libéré. La France ne veut pas que la force malienne soit à Kidal. Peut-être que ça peut compromettre ce qu'ils visent là-bas.
Alassane Cissé, observateur de la scène, les premières heures de l'occupation des régions d'Ondi du Mali, vraiment l'intervention des forces françaises est à vraiment féliciter. Mais après ça, on a remarqué que vraiment la force Barkhane au niveau du nord, il y a toujours des attaques, pourtant ils sont présents sur le terrain, mais moi je vois que vraiment ça n'a pas d'impact sur l'insécurité qui est en train de régner, qui est en train de gangréner au niveau du nord là-bas.
Propos recueillis par notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. Le président français doit passer environ 6 heures sur place avec un programme très chargé, notamment des consultations avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta sur la lutte contre le terrorisme, le dossier sahélien et la difficile mise en œuvre des accords de paix de 2015 qui vise à régler la crise au Mali. Au Niger, des mesures viennent d'entrer en vigueur dans plusieurs zones des régions de Tillabéri et de Taroua dans l'ouest du pays en raison d'infiltrations terroristes venant du Mali voisin. Une quinzaine de marchés ruraux ont été fermés et la circulation des voitures et motos est interdite dans ces zones entre 20h du soir et 6h30 du matin. Ces mesures pourtant salutaires pour la sécurité ont un revers, selon Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement.
Le Niger actuellement traverse une crise alimentaire dans beaucoup de régions et le gouvernement n'a pas tenu compte de ces aspects-là quand il a pris ces mesures d'état d'urgence dans ces régions. Oui, elles sont importantes pour la sécurité, mais en amont, quand on prend ce genre de mesures, on informe les populations, il faut les aider, il faut leur apporter du soutien. Comme ça s'est passé par le passé dans la région d'Agadez et aussi à Difa, il faudrait que le gouvernement, les autorités nigériennes fassent un effort pour appuyer ces populations qui, aujourd'hui, n'ont plus de marché, les boutiques sont fermées, la circulation est interdite dans ces régions-là, c'est des zones frontalières avec des va-et-vient le long de ces frontières-là, ça permet un échange économique avec certains pays frontaliers. Donc, le gouvernement n'a pas pris de mesures idoines à atténuer les souffrances des populations face aux conséquences de cet état d'urgence-là.
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement au Niger. Crise migratoire maintenant, un nouveau pas a-t-il été franchi dans la lutte contre l'immigration clandestine en Méditerranée? En tout cas, la Libye a demandé à l'Italie d'armer les vedettes des gardes-côtes libyens. Claire Morin-Gibault.
La demande a été faite dans le cadre de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre l'immigration clandestine. Après la réception lundi dernier de 4 vedettes réparées en Italie, Abdallah Toumia, le président de la commission libyo-italienne de lutte contre l'immigration clandestine, s'est plaint que ces vedettes ne soient pas équipées d'armes. « Nous ne pouvons pas patrouiller avec. en présence de trafiquants de plus en plus armés, a-t-il déclaré, rappelant que son pays était toujours sous un embargo sur les armes imposé par l'ONU. Hier, 120 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été sauvés par les gardes-côtes libyens au large de Garabouli, à l'est de Tripoli, après avoir été dépouillés du moteur de leur canot pneumatique par un groupe armé. Selon le HCR, plus de 24 000 migrants sont arrivés de Libye en Italie pendant les trois premiers mois de l'année.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RDC, l'insécurité dans le Kasaï, dans le centre du pays, ne peut pas être une raison pour ne pas enrôler les électeurs et reporter les élections dans cette région ni en RDC. Plusieurs dignitaires du Kasaï l'ont fait savoir au président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Eddy Sango, adjoint à Kinshasa, le député de l'Union démocratique africaine originelle, Claudel André Loubaya.
Sa déclaration, la position de la CENI de ne pas enrôler les Kasaïens était à la fois un scandale et une violation délibérée de la Constitution. Nous en sommes convenus qu'il est impossible mathématiquement, techniquement et politiquement d'enrôler et d'élire sans le Kasaï.
Le président de la CENI vous a-t-il confirmé qu'à ce point il était impossible d'enrôler dans le Kasaï?
Il ne l'a pas dit. Il a dit que dans l'état actuel, il était possible de lancer les opérations d'enrôlement dans le Kasaï et qu'il plaidait, il sollicitait du gouvernement avec lequel il travaille déjà dans le cadre du groupe stratégique de sécurisation des élections pour que très rapidement les dispositions soient prises pour entamer l'enrôlement. D'autant plus que le matériel est déjà déployé sur l'ensemble de ces trois provinces.
Mais le chef de la section de la CENI dans la région a été décapité et les matériels destinés à l'enrôlement emportés ou détruits par les miliciens?
Non, d'abord il faut dire que le chef de la section de DKC qui avait été décapité ne l'a pas été dans le cadre de sa responsabilité de membre de la CENI ou responsable de la CENI, non. C'était comme un simple passant qui avait été croisé sur la route et c'était à 400 km du territoire. Il se trouvait sur le territoire de Demba et donc c'était loin de sa juridiction de DKC. Ça c'est un. Deux, les matériels qui ont été incendiés à Luebo n'ont pas été incendié comme matériel de la CENI. C'était simplement un saccage d'un entrepôt qui avait été trouvé. Ça n'a pas été visé directement comme matériel de la CENI. Et c'est ce que nous avons fait savoir au président de la CENI, que le fait, par contre, d'avoir déclaré qu'il n'était pas possible d'organiser l'enrôlement et les élections au Kasaï, c'est ça, par contre, qui peut exposer, qui peut entamer la sécurité et du personnel de la CENI et du matériel.
Mais la période prévue pour l'enrôlement tire à sa fin si l'on devrait tenir à l'échéance de décembre 2017.
Pour besoin d'équité, nous avons fait savoir au président de la CENI qu'il avait la responsabilité d'organiser l'enrôlement pendant 90 jours, 90 jours, comme ça a été le cas dans d'autres provinces, et que rien ne pouvait justifier que l'enrôlement se déroule uniquement ailleurs et pas au Kasaï, ça c'est un, mais de deux, le Kasaï ne pouvait pas servir de prétexte ni au report des élections, ni au retard de celles-ci.
Claudel André Loubaya, député de l'Union démocratique africaine originelle en RDC. Actualité américaine pour terminer, les arrestations de clandestins ont augmenté de près de 38% pendant les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump par rapport à la même période en 2016, selon les toutes dernières statistiques de la police fédérale des frontières, John Lindon.
Entre le 22 janvier et le 29 avril 2017, les agents de la police d'immigration ont arrêté plus de 41 318 personnes sans papier ou soupçonnées de l'être contre 30 028 pour la même période en 2016, a indiqué l'agence. Près des trois quarts avaient déjà été condamnés, dont plus de 2700 pour des crimes violents, a précisé l'agence. Près de 11 000 personnes n'avaient aucun casier judiciaire, soit une augmentation de près de 50%. C'est ce que dénoncent les associations de défense des immigrés et de nombreux maires démocrates qui estiment que ces clandestins sans casier judiciaire ne devraient pas être inquiétés. Malgré cette hausse des interpellations, les expulsions de clandestins n'ont pas augmenté pour l'instant. Il faut savoir que la procédure entre l'arrestation et la déportation peut durer parfois jusqu'à 6 mois. Donald Trump avait pendant sa campagne promis d'expulser les quelques 11 millions de clandestins vivant aux États-Unis.
Merci de votre attention.